Merci d'écouter RFI. Il est 4h30 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
Mardi 5 novembre 2024, première édition d'Afrique Matin. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, à suivre dans 15 minutes. Reportage en Centrafrique, où comme dans tout le continent, les yeux sont rivés sur les États-Unis. Les États-Unis qui s'apprêtent à choisir entre Kamala Harris et Donald Trump. Mais avant ça, le journal est à la une. La plainte déposée par le Soudan contre le Tchad. L'armée régulière assure avoir des preuves de l'appui de N'Djamena aux forces de soutien rapide. Les hommes du général Emeti qui ont réussi la semaine dernière une incursion de quelques heures dans le sud d'El Fasher. À la une également, la tension au Somaliland alors que le scrutin présidentiel approche. Il est organisé dans moins d'une semaine. Mais certains craignent que le président sortant ne se serve du contexte électrique pour se maintenir au pouvoir une nouvelle fois. À suivre également, reportage à Antananarivo, la capitale malgache où l'air est quasiment irrespirable. La conséquence des feux de brousse et de briques avant la saison des pluies. Et puis, Gaëlle Faye remporte le prix Renaudot 2024 pour son roman Jacaranda. Nous entendrons la joie du chanteur et du romancier en fin d'édition. Les combats pour le contrôle d'El Fasher sont entrés dans une nouvelle phase. Les forces de soutien rapide ont à nouveau tenté de s'emparer de la ville stratégique capitale du Darfour du Nord. Alors que les affrontements se sont intensifiés ces 10 derniers jours, jeudi, les FSR ont réussi une incursion de quelques heures dans le sud d'El Fasher où les biens des habitants ont été pillés. Alors face à la pression de ces derniers jours dans ce bastion des forces armées et leurs alliés au Darfour, pour la première fois, des militaires de l'armée soudanaise ont été parachutés au-dessus de la ville encerclée depuis le 10 mai dernier. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'armée accuse le Tchad de fournir des aides aux forces dirigées par le général Emeti. Une plainte a été déposée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les détails avec Ouda Ibrahim.
La plainte a été déposée ce 1er novembre par les membres d'un comité juridique formé par le Conseil souverain et chargé de poursuivre les FSR et leurs alliés étrangers devant les instances internationales. La plainte vise le pouvoir tchadien et l'accuse d'intervenir dans les affaires soudanaises en soutenant les paramilitaires en guerre depuis plus d'un an et demi contre l'armée. Dans un communiqué, le ministère soudanais de la Justice affirme que le Tchad a joué, je cite, « un rôle essentiel dans les crimes commis par la milice rebelle » et que le Soudan détient des preuves tangibles sur cette implication. N'Djamena a réagi à ces nouvelles accusations en réitérant qu'elle n'intervient pas au Soudan sauf en tant que médiateur afin de ramener la paix. Le 29 octobre dernier, le représentant du Soudan auprès des Nations Unies a déclaré que les 30 camions d'aide humanitaire acheminés vers le Soudan depuis le Tchad étaient sous la protection des FSR, mais qu'en réalité, ils transportaient des armes sophistiquées pour eux. Le Tchad a toujours nié toute accusation de la part de Khartoum.
Ouda Ibrahim du service Afrique de RFI. À l'élection présidentielle aux États-Unis et son dénouement ce mardi, parmi les questions clés qui ont animé la campagne, la question migratoire. Le républicain Donald Trump a promis, s'il était élu, qu'il mènerait la plus grande opération de l'histoire américaine pour lutter contre l'immigration illégale. Le républicain veut aussi relancer sa politique de contrôle des frontières. Mais selon Kefa Mtozio, professeur de géographie à la Bowling Green State University, il est spécialiste de la migration internationale. Pour lui, l'ancien président a plus largement contribué à radicaliser le débat dans le pays.
Vous savez, Trump est également accusé de tenir des propos racistes. Prenez par exemple les remarques très dégradantes qu'il a récemment faites à l'égard des personnes d'origine asiatique, qui ont souvent la peau foncée. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une source d'inquiétude, de malaise. On se dit qu'en tant que migrant, même si on a obtenu la citoyenneté, on peut se retrouver victimisé ou ciblé en tant que personne noire. Et puis on ne sait pas vraiment de quelle manière Trump mettrait concrètement en œuvre les mesures qu'il annonce. Rien ne nous dit qu'il s'en tiendrait à la même politique que la dernière fois. On ne sait pas. Et quand vous êtes face à quelqu'un qui est imprévisible et qui a fait des remarques dégradantes envers des personnes qui vous ressemblent, eh bien, quel que soit votre statut, même si vous avez obtenu le statut de citoyen, cela génère de l'appréhension.
You are still likely to be apprehensive.
Kefa Motizo, professeur de géographie à la Bowling Green State University. Et puis, nous le verrons dans le reportage Afrique dans quelques minutes, les Africains ont les yeux rivés sur les États-Unis, avec notamment la question sur les économies africaines qui pourraient être éventuellement affectées par la future politique commerciale des États-Unis. Les deux candidats à la présidentielle américaine envisagent des mesures protectionnistes. Kamala Harris dans le secteur des énergies renouvelables. Donald Trump, lui, via des droits de douane sur tous les produits importés par les États-Unis. L'impact sur les exportations africaines serait moindre qu'en Asie ou en Amérique, car l'Afrique est un moins gros partenaire commercial des États-Unis, mais il serait loin d'être négligeable. Claire Fage.
Des véhicules d'Afrique du Sud aux exportations de diamants ou de pantalons du Lesotho. En passant par la vanille malgache et le cacao ouest-africain, les exportations africaines seraient davantage pénalisées qu'en 2017 par le nouveau programme protectionniste de Donald Trump s'il gagnait l'élection. Julien Marcilly, chef économiste chez Global Sovereign Advisory.
Pendant le premier mandat de Donald Trump, les impacts de sa politique avaient été assez limités en ce qui concerne l'Afrique parce que les mesures protectionnistes visaient un nombre très restreint de produits comme l'acier, et l'électroménager. Cette fois-ci, s'il venait effectivement à mettre en œuvre des droits de douane de 10 à 20% sur l'ensemble des importations, les effets seraient plus notoires, notamment pour les pays qui exportent beaucoup vers les États-Unis et en particulier ceux qui exportent des produits manufacturés.
Les exportations africaines souffriraient aussi indirectement, explique l'expert, des droits de douane massifs annoncés sur les produits chinois.
Les économies africaines qui exportent beaucoup vers la Chine pourraient, elles, être aussi affectées dans un deuxième temps du fait du ralentissement de l'économie chinoise.
Seraient alors les plus touchées les exportations de matières premières africaines, pétrole et métaux. Les métaux africains de la transition énergétique seraient les plus pénalisés en cas de victoire de Kamala Harris.
À Claire Fage du service économie de RFI. Au Mozambique, dans un contexte post-électoral tendu, le principal opposant à Daniel Chapo assure avoir été victime d'une tentative d'assassinat ce lundi. Les faits se seraient produits en Afrique du Sud où Venancio Mondlane a trouvé refuge après le scrutin dont il conteste le résultat. Des assassins étaient à ma porte pour me tuer. J'ai dû sauter par la porte arrière, courir avec mes sacs et ma famille, a-t-il assuré. Lui qui revendique la victoire à la présidentielle. Venancio Mondlane qui dit avoir quitté l'Afrique du Sud. Il a par ailleurs réitéré son appel à 7 jours de grève, une paralysie totale devant aboutir à une grande marche dans la capitale Maputo jeudi. Au moins 25 personnes sont mortes entre les Comores et Mayotte dans le naufrage de leur embarcation dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations, le bateau transportait une trentaine de personnes. Le Prat de Mer entre le département français de Mayotte et les trois autres îles de l'archipel des Comores est une route migratoire particulièrement meurtrière. En septembre, un bateau transportant 12 personnes à son bord n'avait jamais atteint Mayotte après avoir pris la mer depuis les Comores. À la une également, l'élection présidentielle au Somaliland qui a lieu dans un peu plus d'une semaine. Et alors que le jour du scrutin approche, la tension monte dans la République autoproclamée qui s'est séparée de la Somalie en 1991. La présidentielle est prévue le 13 novembre prochain dans un contexte électrique alors que des violences armées ont eu lieu en fin de semaine dernière dans le sud du Somaliland. Correspondance régionale de Gaël Lalex.
C'est vers Rorilougoud, dans la région de Togder, que des affrontements entre deux clans ont fait une douzaine de morts et plusieurs dizaines de blessés vendredi, selon des sources sur place. Dans un communiqué publié le lendemain, le gouvernement du Somaliland accuse la Somalie d'avoir orchestré ces violences en soutenant des milices locales. Depuis 2023, un clan de la Sanod, ville du sud-est, se bat pour rattacher trois régions du Somaliland à la Somalie. Les affrontements sont récurrents, mais l'ampleur de celui de vendredi à quelques jours de l'élection présidentielle inquiète. Il est clair que les armes tombent entre les mains de clans pour compenser le vide laissé par le gouvernement, écrit un collectif d'intellectuels dans un communiqué publié hier. Il y a de sérieuses craintes que le gouvernement du président Moussé Bihi Abdi alimente lui-même le conflit, explique le chercheur indépendant Mohamed Abdirahman. Un report du scrutin serait à son avantage, Moussé Bihi Abdi ayant déjà prolongé son mandat de 2 ans en raison de la crise. Pour l'heure, les armes se sont tues à la demande des sages des deux clans qui ont tenu des discussions ce week-end. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Au Nigeria, face à l'émoi, le président Bola Tinubu a ordonné la libération de mineurs arrêtés en marge de manifestations début août contre la vie chère et la mauvaise gouvernance. Des vidéos montrant les conditions de détention de ces enfants avaient fait le tour des réseaux sociaux et suscité l'indignation dans le pays. Certains des détenus mineurs apparaissaient en état de grande fébrilité au bord de l'évanouissement dans un tribunal d'Abuja. La réaction de la présidence n'a pas tardé. Le ministre de l'information a assuré que le président Tinubu a demandé que ses enfants soient libérés immédiatement. Au cours des récentes manifestations, au moins 21 personnes ont été tuées par les forces de sécurité nigérianes, selon l'ONG Amnesty International, et plus de 700 manifestants arrêtés, selon la police. Un épais brouillard dans le ciel malgache, l'air devient même par moments quasiment irrespirable à Antananarive. Les paysans s'activent en ce moment avant la saison des pluies. Ils brûlent la forêt pour leur culture agricole et pour produire du charbon de bois. La conséquence, un pic exceptionnel de pollution, causé donc, comme chaque année à la même période, par les feux de brousse et les feux de briques aux alentours de la ville. Pauline Le Troquier.
17h30, le soleil décline, un voile blanc et compact commence à recouvrir la ville. La visibilité se réduit alors, les yeux picotent, une odeur de fumée se fait sentir. Dans cette pharmacie du quartier d'Anous, des clients se plaignent des mêmes symptômes. Elissoua, retraitée, en fait partie.
J'ai attrapé un rhume et même la grippe à cause de cette pollution. Cette fois, c'est pire que d'habitude. D'ailleurs, par rapport aux autres années, on ne voit même plus les étoiles la nuit.
Une inquiétude partagée par Zoura Koutoumav, ingénieur spécialiste de la pollution de l'air. La semaine passée, la concentration de particules fines a atteint un niveau 9 fois supérieur au seuil recommandé par l'OMS. En d'autres termes, la qualité de l'air est devenue dangereuse pour tous les publics exposés, sans exception.
Cette pollution nous coûte très cher parce que c'est tout le monde qui en subit les conséquences. Des effets irritation des yeux ou des toux ou provocation des asthmes, mais surtout à long terme. Ça favorise tout type de cancer.
Bien que dénoncés, les feux de forêt sont encore largement tolérés sur l'île. Ils dureront jusqu'à la fin du mois, avant l'arrivée de la saison des pluies. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
De nouveaux prix littéraires pour l'Afrique. L'écrivain franco-algérien Kamel Daoud s'est vu décerner le prestigieux prix Goncourt pour son roman, une fiction sur les massacres de la décennie noire en Algérie. Finaliste pour le prix Goncourt, Gaël Faye a lui remporté le Renaudot pour son roman Jacaranda. Après un succès phénoménal pour Petit Pays, le chanteur et écrivain franco-rwandais a réussi le nouveau défi de raconter le génocide des Tutsis du Rwanda avec simplicité mais aussi profondeur. Catherine Fruchon-Toussaint a rencontré Gaël Faye quelques minutes après l'annonce de sa récompense.
Venu de Kigali, où il habite désormais avec sa famille, Gaël Faye ne cachait pas lundi à Paris sa grande émotion d'être récompensé pour son nouveau roman Jacaranda, une fiction où il revient sur le génocide au Rwanda dont on a commémoré en avril dernier les 30 ans. L'auteur était aussi particulièrement touché d'être le lauréat du prix Renaudot, bien connu dans son pays. Gaël Faye.
Oui, je pense que le prix Renaudot va susciter un engouement parce qu'il y a un précédent, il y a Scholastic Mukasonga, qui est la première écrivaine rwandaise qui a eu le prix Renaudot avec Notre-Dame du Nil. Et ce prix-là avait permis d'exposer largement son texte, ses histoires, ses romans. Donc voilà, je m'inscris également dans ses pas, dans cette filiation-là. Je pense aussi à René de Pestre, qui est mon Pygmalion, qui est mon idole en littérature, qui doit avoir 98 ans et qui a eu prix Renaudot en 88 avec Adriana dans Tous mes rêves et qui est quelqu'un qui m'a donné l'envie d'écrire, l'envie de raconter. Et donc je pense à ces deux figures.
Gaël Faye, artiste franco-rwandais multi-récompensé pour ses chansons, reçoit donc à 42 ans le prix Renaudot pour son roman Jacaranda.
À Catherine Fruchon, Toussaint. Un mot de sport à présent et de football avec le début de la 4e journée de la Ligue des Champions européenne. 9 matchs au programme, une grosse affiche, le Real Madrid contre l'AC Milan et quelques matchs qui ne manquent pas d'intérêt comme Lille qui reçoit la Juventus de Turin ou encore le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen qui se déplace à Liverpool. Le programme complet sur le site internet de RFI et dans une heure avec le journal des sports d'Antoine Grenier.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr.
Afrique Matin sur RFI. Simon Bourtembourg.
La suite de cette première édition d'Afrique Matin, et dans quelques minutes, nous prendrons la direction de la Centrafrique. Comme dans beaucoup de pays du continent, les Centrafricains auront aujourd'hui les yeux rivés sur les États-Unis. Qui sera le prochain président américain? Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ou une victoire forcément historique de Kamala Harris? Les deux candidats ont leurs partisans dans les rues de Bangui, nous l'entendrons. Peut-être rêvez-vous de travailler dans le milieu du cinéma? Producteur, réalisateur, scénariste, en Afrique, les besoins sont importants dans les métiers de l'image ou de la narration. Alors que le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan s'ouvre aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir Creative Lab qui s'attelle à pallier le manque de main-d'œuvre dans le secteur. À suivre également, comme chaque matin, la chronique des matières premières consacrée aujourd'hui au pétrole. Et puis dans un peu plus de 10 minutes, l'actualité à Mayotte et à La Réunion avec Benoît Ferrand. RFI, 3 heures passées de 45 minutes à Abidjan. Nous prenons à présent la direction de la Côte d'Ivoire où s'ouvre aujourd'hui la deuxième édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. Venus d'Ouganda, du Cameroun ou de Tunisie, les professionnels de l'audiovisuel sont réunis pendant 3 jours pour échanger sur les opportunités de ce secteur. Sur le continent, les besoins sont importants, notamment dans les métiers de l'image et de la production ou encore dans les métiers de la narration. Alors nous vous proposons ce matin de découvrir Creative Lab qui met l'accent sur la formation. Cette initiative privée s'attelle à faire découvrir aux jeunes les métiers du cinéma. C'est le sujet d'Afrique Économie du jour, signé Binta Diagne.
C'est un salon dans lequel deux experts comptables racontent leur métier. C'est la première séquence d'un podcast vidéo enregistré par une société de production. Derrière la caméra, Aimé, la trentaine, c'est un cadreur autodidacte qui participe à une formation pour enrichir son parcours.
Je voulais apprendre, essayer de maîtriser le vocabulaire en fait, de ce métier, essayer de connaître les étapes, voilà, les différentes étapes. Et puis voilà. Ça m'a permis au moins d'apprendre la rigueur du métier, quoi, de maîtriser certains points, voilà. Essayer d'interpréter des choses qu'avant je ne savais pas.
Cette formation met l'accent sur la post-production.
Quand je suis dans mon poste de montage, je suis dans mon univers.
Penda Ndiaye a quitté une chaîne de télévision privée au Sénégal pour se former au montage de long format.
Avant, je faisais juste montage de reportages, émissions et autres. Donc on m'a appris comment monter un film, comment on fait un documentaire, les séries et tout. En plus, j'ai appris le métier de script plateau.
Cette formation est initiée par Creative Lab. C'est une structure créée il y a 8 ans pour accompagner l'industrie audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Ce besoin est à l'origine parti d'un constat, le manque de ressources humaines dans ce domaine. Charlie Kodjo est producteur et cofondateur de Creative Lab.
Pas mal de sociétés de production en Côte d'Ivoire sont obligées de faire venir la main d'œuvre de l'extérieur, notamment du Sénégal, du Maroc, du Burkina Faso ou de la France sur certaines productions. On manque de scénaristes, de bons scénaristes, on manque de bons réalisateurs, on manque de directeurs photo, on manque de monteurs, on manque d'ingénieurs du son. Franchement, sur toute la chaîne de valeur, il y a un besoin de renforcer en termes de ressources humaines.
Son associée dans ce projet, Cynthia Nassardine, est actrice et productrice. Selon cette jeune, ce secteur est en pleine expansion.
C'est vrai qu'on vide beaucoup de subventions étatiques, mais petit à petit, le secteur privé commence aussi à s'intéresser à notre industrie, ce qui crée beaucoup plus de facilités d'expansion. Donc aujourd'hui, on peut en vivre.
Au-delà des productions pour des entreprises privées, les débouchés concernent également la réalisation de séries pour les chaînes de télévision. À cela s'ajoute un réseau de salles de cinéma qui progressivement s'étend dans la capitale économique ivoirienne. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Afrique Économie à réécouter sur le site www.rfi.fr. Un point sur les principaux titres de l'actualité internationale à présent. C'est le jour J aux États-Unis. Plusieurs scrutins se déroulent, dont la présidentielle. Les deux principaux candidats sont l'ancien président républicain Donald Trump et l'actuelle vice-présidente démocrate Kamala Harris. Un décalage horaire oblige, les premiers bureaux de vote ouvriront à la mi-journée en temps universel. Pour la présidentielle, le vote est indirect puisque ce sont des grands électeurs qui éliront le ou la présidente. Il y a aussi des élections au Congrès. La Chambre des représentants est renouvelée ainsi qu'un tiers du Sénat. Nous en parlons largement ce matin sur RFI. Dans le reste de l'actualité, en Israël, 4 personnes, dont des membres de l'appareil sécuritaire israélien et un ancien collaborateur du Premier ministre, ont été arrêtés après le scandale des fuites sur Gaza. Selon un tribunal israélien, des informations militaires en partie fausses ont été divulguées à 2 journaux étrangers qui les ont publiées. Et puis, depuis le début de la semaine, la Russie et l'Indonésie mènent des premiers exercices navals de leur histoire. Durant 5 jours, l'armée des deux pays va effectuer des manœuvres conjointes dans la mer de Java. Une décision sous forme d'affirmation de la politique diplomatique du nouveau président indonésien.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
Nous en parlions, jamais l'issue d'un duel présidentiel aux États-Unis n'a été aussi imprévisible. Les Américains sont appelés ce mardi 5 novembre à choisir leur prochain président. Le scrutin suscite le débat aux quatre coins du globe et notamment sur le continent, en Centrafrique. Les projets radicalement opposés de Donald Trump et Kamala Harris ont chacun leurs partisans. Reportage à Bangui, signé Rolf Steve de Mialeux.
Kamala Harris et Donald Trump seront fixés sur leur sort dans la nuit de mardi à mercredi.
Allongé sur le canapé dans le salon de sa maison avec une carafe de vin de palme à côté, Jonathan Guyagré, jeune entrepreneur, ne rate rien de la campagne présidentielle sur les chaînes américaines.
Je suis un fan des valeurs républicaines, donc je vais m'aligner derrière Donald Trump. Donc pour moi, c'est déjà une source d'inspiration pour tout ce qu'il a eu à faire pour les États-Unis.
Michigan, on va parler de cette présidentielle américaine avec...
Écharpe à l'effigie du candidat républicain Donald Trump autour du cou, Jonathan est séduit par les projets de son mentor.
Donald Trump, c'est d'abord un modèle. Sa politique, c'est d'abord par rapport à l'immigration. Et également sa politique en matière d'ingérence internationale, parce que pour le président, les États-Unis n'auront plus le droit d'interagir en fait dans tout ce qui est international et tout. Et il a parlé également de non à l'avortement, et c'est ce qui est normal en fait, parce que non, c'est ce qui me plaît quoi.
À Bangui, les Centrafricains suivent de bout en bout la course à la Maison Blanche. Porcia Dea Abazen, présidente de la Fédération des femmes centrafricaines, nous accueille dans son bureau. Son admiration pour Kamala Harris est grande.
Kamala Harris, elle est la première femme élue vice-présidente des États-Unis. Elle soutient, et cela lui tient particulièrement à cœur, les droits des femmes et des minorités. Elle incarne l'optimisme d'un avenir meilleur.
Kamala Harris est devenue un modèle de réussite pour certaines femmes centrafricaines.
La voir à la Maison-Blanche, c'est un moment historique, parce qu'elle a toujours placé au cœur de ses ambitions d'ouvrir les portes pour la place de la femme dans la société.
Dans les rues de Bangui, les discussions sont parfois houleuses et certaines personnes pensent que les Américains ne sont pas prêts à être gouvernés par une femme. Ce jour marquera la fin du monde selon de nombreux observateurs. Mais Lionel Corsani ne croit pas à ces superstitions.
Je ne pense pas que l'élection d'une femme est synonyme de la fin du monde aux États-Unis. C'est de la rumeur parce qu'il n'y a pas un fondement tangible. Je pense que les femmes peuvent devenir présidentes et les hommes aussi peuvent devenir présidents. Il n'y a pas d'obstacle.
Kamala Harris ou Donald Trump, les Centrafricains sont impatients de connaître le prochain occupant de la Maison Blanche. Rolf Steve Domialeu, Bangui, RFI.
Alors, question très simple. Qui va gagner cette présidentielle, Gauthier ?
Et pour le savoir, ce mardi, RFI sera en édition spéciale dès 18h, temps universel, pour vivre donc à l'issue de la course à la Maison Blanche. Place à la chronique des matières premières consacrée ce matin au pétrole. Les 8 membres de l'OPEP+ ont décidé ce week-end de prolonger leur coupure de production d'or noir jusqu'à la fin du mois de décembre. Décembre devait pourtant signer la relance dans la production, mais faute de demande et dans l'attente des élections américaines, l'OPEP+ joue la prudence. Marie-Pierre Olfan.
Les pays de l'OPEP+ avaient prévenu que leur décision pourrait être revue à tout moment et c'est ce qui s'est passé à l'initiative de 8 des 22 membres de l'organisation. Ils ont jugé que le contexte n'était pas encore propice à une réouverture des vannes. Ni les coupes de production, ni le conflit au Proche-Orient ne semblent pour l'instant avoir de réelles prises sur les cours. Depuis des mois, les facteurs macroéconomiques reprennent à chaque fois le dessus et maintiennent les prix des deux valeurs références américaines et européennes autour de 70 $ le baril. Ce qui empêche les cours de remonter depuis plusieurs mois, c'est la peur de ne pas voir la demande repartir durablement en Chine et dans le monde, alors qu'en face, l'offre n'est finalement pas si restreinte que ce que voudrait l'OPEP+, car si les membres du cartel pétrolier gardent sous terre près de 6 millions de barils jour pour ne pas inonder le marché, les pays non membres ne s'imposent pas de limites. C'est en particulier le cas aux États-Unis où la production de brut a atteint un record de 13,4 millions de barils jour au mois d'août. Résultat, l'OPEP+ ne représente qu'à peine la moitié de la production mondiale, d'où sa difficulté à orienter aujourd'hui les cours. Attendre jusqu'à fin décembre pour mettre plus de barils sur le marché comme cela vient d'être décidé, c'est aussi pour le cartel une façon de temporiser jusqu'au résultat des élections américaines. Leur issue pourrait en effet avoir un impact significatif sur l'économie, sur la demande et donc sur les prix.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières, à retrouver évidemment sur l'application RFI Pure Radio. Place à présent à votre rendez-vous avec l'actualité à Mayotte et à La Réunion. Un journal présenté ce matin par Benoît Ferrand. Et à la une de votre édition, l'inauguration à Mayotte des locaux flambant neufs de la Technopole de Dembéni.
Bonjour. Un lieu qui a coûté 15 millions d'euros et qui se veut un véritable outil de développement pour le département 101, comme le précise Madi Velou, président de Mayotte Technopole. Il est au micro de Kalatoumi Abdelhadi.
Ici, nous avons plusieurs salles de réunion, salles de travail. Nous avons des espaces coworking. Nous avons également un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 240 personnes assises. Nous avons la résidence des chercheurs ou des intervenants. On a 5 logements ici, studio. Nous avons à côté aussi des espaces locatifs, des bureaux réservés à des entreprises qui sont dans la recherche, dans l'innovation. On a tout un pôle qui est prévu aussi pour l'Université de Mayotte qui va délocaliser ses formations de recherche sur le site. Donc l'innovation que nous cherchons ici, c'est tout ce qui est autour de la mer. Tout simplement, on considère qu'il y a énormément de métiers peu connus de nos jeunes, peu connus de nos enfants. Et surtout, il y a un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à la mer. Donc ils pourront venir ici trouver un lieu pour confirmer leurs recherches. Toute la partie transformation, donc pour le porteur du projet du territoire, pour les entreprises, on a un espace Fab Lab prévu pour ça, qu'on puisse transformer ici également.
Et puisque nous sommes à Mayotte, sachez que les négociations avec leur hiérarchie n'ayant pour l'instant rien donné, les grévistes du conseil départemental ont décidé de durcir leur mouvement. Conséquence, plus aucune barge, seul et unique moyen de relier les deux îles, ne circulait hier lundi entre la Grande et la Petite Terre. Direction l'île de la Réunion, où dimanche dernier, 3 novembre, des associations organisaient un hommage aux esclaves enterrés sans sépulture au cimetière dit du Père Lafosse à Saint-Louis. Une cérémonie pour ces ancêtres qui n'ont leur nom écrit sur aucune tombe, comme l'explique le Saint-Louisien François Valéama au micro de Patrick Smith.
En fin de compte, ça, il faut que nous rendions compte qu'il appartient à la Réunion tout entière. Toute la Réunion, il doit approprier ça. Et cette histoire de la Réunion-là, elle est ici. Elle est ici, dans ce berceau-là. Il y en a plusieurs, mais ils pensent à la Réunion, des cimetières qui ont été abandonnés, où les esclaves ont été enterrés. Et les autres n'avaient point moyen, nous n'avions point moyen de dire ben, où ça, il est notre histoire. Mais dans ce cimetière-là, il y en a des tombes, il n'y a peut-être pas de nom dessus, mais nous répare l'histoire en quelque sorte, parce que nous donne la possibilité de dire qu'il avait quelque chose avant, et ce quelque chose-là, on est enterré là-dedans.
On reste à Saint-Louis avec les maisons funéraires qui permettent aux familles qui ne disposent pas ou plus d'un espace suffisant pour les veillées mortuaires de recevoir dignement toutes les personnes venues rendre hommage aux défunts. L'une de ces maisons sera bientôt mise en service dans le quartier de la Rivière, Saint-Louis, au sud-ouest de La Réunion. Suzette Emma.
Cette première maison funéraire est bien située puisqu'elle jouxte le cimetière de la Rivière. Lorsqu'il sera rénové, ce lieu de recueillement comptera 2 salles de veillée, 2 jardins, un équipement conçu pour une réelle intimité, un espace apaisant et fonctionnel. Dans le sous-sol, le local est dédié à la préparation des corps. Cet équipement de proximité répond à la demande des familles qui habitent notamment dans les immeubles où il est plus compliqué d'organiser des veillées mortuaires. À côté du bâtiment funéraire, dans un jardin arboré, il sera aménagé un jardin des souvenirs. La municipalité envisage l'installation d'une deuxième maison funéraire, cette fois sur Saint-Louis, et travaille à construire un nouveau cimetière sur le territoire.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée, Benoît. Et c'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Matin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez bien à l'écoute de Radio France Internationale. Dans un peu plus de 30 minutes, à présent, votre prochain rendez-vous avec l'actualité africaine. Nous vous proposerons notamment différents regards africains sur l'élection présidentielle américaine. D'ici là, dans quelques secondes à présent, un nouveau journal avec Clotilde Dumay.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Kamala Harris ou Donald Trump, qui succédera à Joe Biden? Que retiendrez-vous de cette campagne particulièrement agressive? Alors que les Américains sont appelés aux urnes, RFI vous donne la parole et nous répondons à vos questions pour tout comprendre du système électoral américain.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.